Les éditions de l'œuvre de Goethe font conventionnellement débuter la période classique, Zeit der Klassik, par les élégies romaines. Donc il n'est pas étonnant dès lors que les lectures des élégies soient généralement placées sous le signe du classicisme de Weimar, de ses valeurs supposées et d'un certain canon goethéen, principe d'unité, analogie entre les domaines de la nature et de l'art, équilibre. Et il est certain que les élégies thématisent le choc attendu et recherché de la rencontre avec l'espace méditerranéen et la sphère antique. Il s'agit d'une sorte de réflexion de l'antique, puisque Goethe reprend ici le modèle de l'élégie érotique romaine, et notamment des trois poètes élégiaques de l'époque augustéenne, Catulle, Tibulle, Properce, les triumvirs que mentionne la cinquième élégie, qui ont reçu leur inspiration du dieu amour, Amor, lequel propose maintenant ses services au poète allemand, notamment dans l'élégie 13, dans la 13e élégie. On peut trouver dans les premiers chapitres du voyage en Italie un modèle possible de cette réflexion, lorsque Goethe, après avoir vu les œuvres de Palladio à Vicenza, Padoue et Venise, s'identifie à lui au point de lui accorder le statut de grand poète. Es ist wirklich etwas Göttliches in seinen Anlagen, völlig wie die Force des großen Dichters, der aus Wahrheit und Lüge ein Drittes bildet, dessen erborgtes Dasein uns bezaubert. Il y a quelque chose de divin dans ces prédispositions, telle la force d'un grand poète qui forme avec du vrai, avec du mensonge, une troisième chose dont l'existence d'emprunt nous enchante. Plus tard, à Venise, il est saisi par la grandeur et la perfection des œuvres de cet artiste, né avec un sens intérieur pour tout ce qui est grand et plaisant, qui d'abord, par un effort de formation inouïe, approche les anciens pour enfin les reconstituer par lui-même. Reconstitution. Le recours à Properce aurait pu jouer un rôle analogue pour Goethe que le recours à Vitruve, l'auteur d'un art de la construction dans l'Antiquité, pour Palladio. On sait par ailleurs que Goethe avait une connaissance intime de ses poètes latins, en particulier par l'intermédiaire de son ami Karl Ludwig von Knebel, le Urfreund, qui lui faisait parvenir des éditions récentes et qui traduisait lui-même les œuvres de cette triade élégiaque, le Kleeblatt, la feuille de trèfle, comme il les nomme dans leur correspondance. Dans les élégies romaines, outre la mention des triumvirs, les nombreuses citations et allusions aux œuvres de Properce, mais aussi d'Ovide, attestent cette fréquentation. Par ailleurs, les élégies s'appuient sur les expériences faites au cours des deux voyages en Italie, donc 86-88 et 1790, comme le montrent de nombreux détails le motif de la chanson de Malbrou. Dans la deuxième élégie, le panthéon des moulages réuni dans les appartements romains de Goethe, dans la 11e élégie, l'évocation de divers lieux de Rome, ou encore le recours à la notation horaire en usage en Italie, dans la 15e élégie, qui est explicité au début du voyage. Si bien que le journal de voyage, ou les notes sur lesquelles il repose, ont pu être considérées comme une carrière Steinbruch utilisée à l'édification des élégies. On retiendra donc qu'à côté du journal intime et des lettres envoyées au cercle de Weimar, qui fournissent la matière de la Italienische Reise, les élégies représentent un troisième type de réflexivité appliquée au voyage, l'épigramme vénitien, peut-être un quatrième, sans doute un quatrième, encore que la frontière entre les élégies et les épigrammes n'est pas toujours aisée à tracer. L'élégie érotique romaine n'a que peu à voir avec l'idée que nous nous faisons du ton élégiaque, généralement. Point de tristesse, point de lamentation, point de complainte. Le classement par genre s'est effectué par le maître, en l'occurrence, ce sont des distiques, hexamètres et pentamètres. Le poète y raconte à la première personne des épisodes amoureux, mettant au centre une figure féminine désignée par un nom mythologique. Cynthia chez Properce, Corinne chez Ovide, avec une liberté de ton qui fait pendant à la liberté des mœurs qu'on en entrevoit à travers ces petits récits. L'immédiateté du sentiment et de l'expérience amoureuse sont brisées par un code poétique et une ironie très particulière. dans un ouvrage consacré à l'élégie érotique romaine, Paul Venn, qui cherche à faire comprendre à son lecteur l'ironie spécifique des poètes latins, renvoie d'ailleurs à la poésie de Goethe. Pour les modernes, écrit-il, ce serait peut-être Gongora, ou bien le divan occidental de Goethe, avec ce qu'on appelle l'ironie goethienne, qui en donne peut-être l'analogie la moins éloignée. C'est ce modèle que Goethe a repris, en s'appuyant sur les recherches prosodiques de ses contemporains pour adapter la métrique ancienne au vers allemand. Son héroïne porte un nom qui n'apparaît cependant qu'une fois, Faustine, dans la 18e élégie, où il fait l'éloge de sa fidélité, de la fidélité de Faustine, qui constitue la meilleure des protections contre les maladies vénériennes. Elle apparaît une deuxième fois dans les épigrammes vénitiens, mais sous forme négative, lors du deuxième voyage en Italie. Schön ist das Land, doch ach, Faustinen finde ich nicht wieder. Das ist Italien nicht mehr, das ich mit Schmerzen verließ. C'est peut-être la seule fois où l'on rencontre un ton élégiaque au sens commun, mais dans un épigramme et non pas dans une élégie. Et il relève d'une construction rhétorique et non pas de l'expression d'une détresse personnelle. Il faut insister sur la grande variété de formes dans les élégies. Il y a de grandes différences de longueur, de longs développements alternent avec de brèves réflexions quasi épigrammatiques. Certaines sont adressées à la femme aimée, d'autres à des divinités ou à soi-même. Elles ont parfois un caractère rhétorique et contiennent souvent des discours très construits, discours d'un dieu, du jeu lyrique ou de la femme aimée, et l'une d'elles est entièrement faite d'un bref dialogue. C'est la 14e élégie, c'est un dialogue avec un domestique. Les élégies romaines marquent une innovation dans l'œuvre de Goethe, non seulement par le choix de la forme métrique, qui est très contrainte si on les compare avec la veine populaire de ses débuts ou avec les vers libres des hymnes, mais aussi parce que c'est la première fois que les poèmes de Goethe forment un cycle. Il y a 20 élégies. Dans la présentation que nous connaissons généralement. Cet arrangement cyclique tel que nous le lisons aujourd'hui a été très lent à se dessiner cependant pour des raisons qui tiennent autant à l'autocensure qu'aux pratiques, qu'aux nécessités poétiques. Il y avait 24 élégies, mais deux d'entre elles, d'inspiration ouvertement priapique, n'ont sans doute jamais été prévues pour la publication. Deux autres ont été écartées dans lesquelles les allusions sexuelles semblaient trop présentes. Un lit qui grince, une supplique adressée au dieu pour qu'il éloigne les maladies vénériennes de son petit jardin et lui assure une jouissance sans risque. La publication des élégies, des 20 élégies donc, qui ont été retenues, comme celle des épigrammes vénitiens d'ailleurs, est due à l'initiative de Schiller, dont l'attitude face à l'immoralité de certaines pièces semblait assez ambivalente. La publication de Les Huren, en 1795, lui a valu une célèbre remarque de Herd, pour qui le titre du Huren devait désormais s'imprimer avec un U à la place du O, par un jeu de mots transformant les déesses des heures en putains. Il est vrai que, même après la suppression des 4 élégies les plus licencieuses, le contenu des élégies pouvait choquer les bonnes consciences. Il y a, par exemple, l'évocation de détails corporel. Le poète compte les pieds de scande les pieds de l'hexamètre sur le dos de la jeune femme pendant son sommeil. Élégie 5. Il se réveille dans les bras de son ami. Élégie 18. De manière. Alors, ces détails corporels sont évoqués de manière descriptive ou codifiée. Un heiliges Plätzchen pour le sexe féminin dans l'élégie 12. Im schönsten Moment. Qui renvoie donc au paroxysme de l'amour. Élégie 18. Denkmal der Lust, monument au stèle du plaisir pour l'érection constatée au réveil après une nuit d'amour. Le fait que la jeune femme se laisse entretenir en échange de ses faveurs, la deuxième élégie, qui ont été d'ailleurs très vite accordées, ce qui fait la matière de la troisième élégie. Et de manière générale, c'est l'affirmation décomplexée, dirait-on aujourd'hui, d'un amour physique pratiqué sans remords ni scrupules. L'allusion à Priap, associée à un jeu de mots transparent, c'est Vénus qui parle en s'adressant à Bacchus, sollte der herrliche Sohn uns an der Seite nicht stehen. La chose devait heurter, et les conflits avec les bonnes consciences de Weimar sont d'ailleurs thématisés dans l'avant-dernière élégie, la 19e, qui met en scène la rivalité entre fama, la renommée ou la réputation, et amour à mort. Car les élégies ont été écrites non pas à Rome, mais après le retour de Goethe à Weimar, entre 1788 et 1790. Le barbare, comme le sujet des élégies se désigne parfois, est de retour chez lui, dans ce nord brumeux qu'il dit détester dans les élégies, en créant la fiction de sa recrée la fiction de sa présence dans le sud. Oh, wie fühle ich in Rom mich so froh, gedenk ich der Zeiten, da mich ein graulicher Tag hinten im Norden umfing, trübe der Himmel und schwer auf meine Scheitel sich senkte, farb- und gestaltlos die Welt um den Ermatteten lag. Oh, quel bonheur pour moi d'être à Rome, quand je songe au temps où un jour grisâtre m'environnait, là-bas, loin dans le nord, un ciel assombri pesait de tout son poids sur ma tête, un monde sans couleur et sans forme se déployait autour de mon âme abattue. Les recherches du biographe de Goethe ont bien identifié une Faustine, jeune veuve romaine de 24 ans qui aurait accordé ses faveurs au poète voyageur allemand. Mais on sait que cette expérience biographique, s'il a existé, encore qu'il n'est pas nécessaire d'ailleurs de supposer un référent féminin unique à toutes les élégies, la partenaire y est le plus souvent désignée de manière générique, das Mädchen, die Liebst. Voilà, cette expérience biographique est doublée par une autre dans un jeu de substitution qui donne lieu à un jeu de masque et de travestissement. Faustine, la romaine, a cédé la place dans la vie de Goethe à Christiane Vulpius, rencontrée en juin 1788 dans les jardins de Weimar. La liaison est considérée comme une mésalliance, comme on sait, par la société de Weimar, et cette histoire que nous connaissons fait partie de l'horizon des élégies. C'est un biographisme contre un autre. La relation obéit à une construction intellectuelle et repose sur un échange complexe de perspectives temporelles. La date de composition des élégies implique une attitude rétrospective. Quand bien même, comme on l'a longtemps soutenu, les élégies auraient été conçues à Rome et seulement exécutées à Weimar. Mais je pense que ce point de vue est aujourd'hui plus ou moins abandonné. L'inscription dans un présent est donc une fiction, mais si l'expérience romaine n'est qu'un masque pour évoquer une autre histoire d'amour, bien présente celle-là, la perspective est bien celle d'une contemporanéité de l'expérience vécue et de l'expérience poétique. Quand ce n'est pas un ultime renversement qui a lieu parfois, lorsque le présent de Weimar est relégué dans une antériorité par rapport à l'aventure romaine, comme par exemple à la fin de la quatrième élégie. Le présent est parfois travesti en passé de son propre passé. La tradition interprétative attribue à l'aventure supposée avec Faustine et à celle attestée avec Christiane de Vulpius un rôle identique et les rassemble en un seul et même événement. Cet événement consacre le passage vers une sensualité heureuse, assumée, non réfrénée. Si le passage a été rendu possible par la rencontre avec la sphère géographique et culturelle que représentait Rome, le dédoublement semble indiquer que l'expérience peut être transposée en dehors de l'espace méditerranéen et se poursuivre à Weimar. Elle est investie dans cette vision des choses, dans le projet de vie totalisant, inhérent au classicisme. Dans une perspective un peu différente, on pourrait se demander si ce transfert n'installe pas l'opposition nord-sud au cœur même de Weimar, où il pourrait agir désormais comme un ferment de subversion. Heinrich August Korff, que je cite comme représentant de cette tradition interprétative, écrit « Was hier Ereignis wird » dans les élégies. Das ist eine Art der Sinnenhaftigkeit, die den Geist nicht tötet, sondern gerade wahrhaft lebendig macht, weil sie ihm erst Stoff gibt, sich eine Welt daraus zu schaffen. Was hier Ereignis wird, das ist ein Leben von so schöner Ausgeglichenheit, gesunder Erdenfreudigkeit und erhebender Geistigkeit, glücklicher Beschränktheit und wundervoller Weite, dass die Idee der schönen Humanität für uns weit überzeugender macht, als alle theoretischen Ableitungen in Schillers philosophischen Schriften es vermögen. Der klassische Mensch ist möglich. L'événement qui s'est produit, c'est une sorte de sensualité qui ne tue pas l'esprit, mais au contraire le vivifie en lui apportant la matière pour créer un monde. Cet événement, c'est une vie caractérisée par un si bel équilibre, un saint plaisir de la vie terrestre, une spiritualité qui nous élève, un bonheur de limite, un élargissement merveilleux, une vie qui rend l'idée de la belle humanité bien plus convaincante pour nous que ne le font toutes les déductions théoriques que l'on trouve dans les traités de Schiller. L'homme classique est possible. On s'est souvent interrogé sur les différentes sphères abordées par Goethe dans les élégies et sur la relation que l'on peut construire entre elles. Généralement, on distinguait trois cercles concentriques, la rencontre avec la jeune veuve romaine et le poète, entre la jeune veuve romaine et le poète allemand, premier cercle, au centre. Ensuite, le deuxième cercle, l'univers culturel représenté par Rome, et enfin, le monde de la mythologie grecque. Dans un texte plus récent, de 2013, Sandra Richter a opposé pour les élégies romaines les notions de présence, l'expérience amoureuse de Goethe, et la notion d'autoréférentialité qu'elle semble restreindre à la discussion du rapport dans les élégies au modèle poétique de l'Antiquité. Il me semble qu'il s'agit là d'une réduction qui n'a pas lieu d'être et contre cette réduction et contre la position plus ancienne d'une totalisation réussie d'emblée, comme dans l'extrait de Korff, il me semble que l'on pourrait donner plus de place au caractère expérimental des élégies, de chaque élégie, dont chacune explore, me semble-t-il, un aspect particulier de la relation entre l'amour qui se construit entre l'amour et la création poétique. Nous sommes bien. L'élégie 11 le précise de manière programmatique dans l'atelier Werkstatt d'un poète qui a réuni autour de lui tout un panthéon, c'est-à-dire un fond de récits mythologiques dans lequel il peut puiser. Dahin bestrebt sich der Dichter, dass die Werkstatt um ihn immer ein Pantheon sei. Cela donne un tour plus analytique aux élégies qui formerait cette hypothèse, donc si on la poursuit, permettrait de donner un tour plus analytique aux élégies, qui formerait quelque chose comme une casuistique où seraient déclinées toutes les figures possibles du rapport entre amour et poésie, deux domaines dont chacun offre à l'autre la matière d'une réflexion. Tantôt l'amour se réfléchit dans la poésie, tantôt la poésie dans l'amour. Il s'agit d'emblée de deux temporalités distinctes et rivales. Quand, dans la première élégie, le voyageur, qui se consacre encore aux études de monuments, distingue le temps utile, utilisé à l'instruction, au temps de l'amour qu'il ne connaît pas encore. « Noch betrachte ich Kirchen, Palast, Ruinen und Säulen, wie ein bedächtiger Mann schicklich die Reise benutzt. » C'est un temps qui lui sera bientôt disputé par les nécessités du commerce amoureux, les allées et venues des amants, les chemins en même temps inconnus et anticipés qu'il empruntera pour se rendre chez elle ou pour revenir de chez elle. À cette rivalité entre l'amour et la connaissance s'ajoute une autre, celle qui s'établit entre l'amour et sa propre création, stimulée par l'étude de l'Antiquité. Ce sont deux domaines de la Bildung. D'une part, les formes qu'il fait naître ou qu'il envisage de faire naître, bilden, créer des formes poétiques au début de la 13e élégie, et les formes du corps de la femme endormie, une autre bildung sur laquelle repose son regard. Diese Formen, wie groß, wie edel gewendet die Glieder, reprenant une homologie entre les formes des marbres et les formes de la chair, déjà exposées dans la 5e élégie. Cette rivalité ou concurrence de deux temporalités est souvent exprimée par l'alternance entre la nuit et le jour, avec un régime diurne diurne correspondant à l'instruction et à la poésie, un temps des muses, un régime nocturne correspondant au plaisir érotique. Je cite donc la cinquième élégie. Ich befolge den Rat, durchblättere die Werke der Alten, mit geschäftiger Hand täglich mit neuem Genuss. Aber die Nächte hindurch hält Amor mich anders beschäftigt. Beschäftigt werde ich auch halb so gelehrt, bin ich doch doppelt vergnügt. Je prends un plaisir toujours croissant à feuilleter le long des jours, d'une main assidue, les œuvres des anciens. Mais l'amour, au cours des nuits, m'impose d'autres travaux. J'y gagne de n'être instruit qu'à demi, mais doublement heureux. La rivalité ou complémentarité entre l'amour et la poésie se mue en collaboration lorsque les deux temporalités se confondent. Il y a bien un échange de procédés. Les deux règnes peuvent désormais se substituer, se confondre, l'amour tenir la place de la poésie celle de l'amour. La nuit se prolonge indéfiniment au-delà de l'aurore et inversement, il se surprend pendant une nuit d'amour à compter les hexamètres sur le dos de son ami. Oftmals habe ich auch schon ihren Armen gedichtet und des Hexameters Maß leise mit Fingern der Hand ihr auf den Rücken gezählt. Souvent aussi, j'ai dans ses bras composé des poèmes et sur son épaule, j'ai scandé d'un doigt léger les rythmes de l'hexamètre. Voilà, je vous proposerai maintenant deux élégies, donc la 12e et la 19e, pour tenter de vérifier, vérifier comment peut fonctionner cette lecture qui s'intéresse donc à la, disons à cette manière qu'a Goethe de décliner le rapport entre amour et poésie. Et pour ce qui est de la 12e aussi, de la politique. Donc 12e, 19e, et ensuite nous aborderons ensemble la 15e, et là je m'arrêterai après quelques indications liminaires. La 12e élégie a pour objet, comme je m'efforcerai de montrer, le rapport entre politique, amour et poésie. La rédaction des élégies est en effet contemporaine de la Révolution française, entre 1788 et 1790, donc entourant l'année 1789. Et la première publication des élégies, la 13e, a eu lieu en 1791 à Berlin, sous un titre sur lequel on peut s'interroger, « Élégie, Rome, 1789. Les événements français sont largement évoqués dans les épigrammes vénitiens. Goethe y rappelle son aversion ancienne contre les apôtres de la liberté, épigramme 20, critique les enthousiastes, Schwärmer, épigramme 21, renvoie dos à dos les représentants de l'ancien régime et les démocrates, déplore le triste sort de la France où la foule serait devenue le tyran de la foule, épigramme 22, dénonce les mensonges et absurdités que les enthousiastes tentent de faire passer comme frappés du coin de l'esprit. Dans les élégies, une seule allusion explicite aux événements français, elle se trouve dans la deuxième élégie, où les hommages et questionnements importants dont est poursuivi l'auteur du Werther, Goethe écrit « Wäre Werther mein Bruder gewesen, ich hätte ihn erschlagen. » Donc si Werther avait été mon frère, je l'aurais assommé. Ces hommages et ces questionnements importants dont il est poursuivi, cède la place dans la version définitive au discours politique. C'est une élégie pour laquelle la première version et celle qui a été ensuite publiée diffèrent considérablement. Donc dans la première version, il s'enfuit de Weimar pour échapper aux interrogations, enfin, donc liées à sa propre gloire littéraire. Donc, qui le poursuit, telle la chanson de Marlborough, donc à travers toute l'Europe. Et donc, alors il y échappe grâce donc à l'anonymat qu'il trouve lors du voyage en Italie. Alors, cet élément n'est pas complètement abandonné, mais est considérablement réduit au point de ne plus être reconnaissable véritablement. Et il s'y substitue donc une critique des discours politiques contemporains. C'est la nouvelle chanson de Marlborough à laquelle il s'efforce maintenant d'échapper. Auch ihr übrigen wahret mir wohl, in großen und kleinen Zirkeln, die ihr mich oft nahe der Verzweiflung gebracht, wiederholet politisch und zwecklos jegliche Meinung, die den Wanderer mit Wut über Europa verfolgt. Und so musste ich bis jetzt auf allen Tritten und Schritten schelten hören das Volk, schelten der Könige Rat. Adieu à vous aussi, cénacles grands et petits, qui souvent m'avez mis à deux doigts du désespoir. Continuez cet oiseux verbiage politique qui poursuit de sa rage le voyageur à travers l'Europe. C'est ainsi que partout où j'ai porté mes pas, j'ai dû entendre critiquer le peuple, critiquer le Conseil des rois. C'est un agacement qu'il exprime. On pourrait peut-être, mais de façon plus cryptée, y rattacher aussi le Hundegebell, les aboiements des chiens, dans la 17e élégie, encore qu'une. Il faut construire pour y voir une allusion au discours politique, un rapport qui peut, enfin, pour lequel il existe un élément de preuve, puisqu'il y a une des Xenien, verschiedene Dressuren, qui oppose les aristocratische Hunde demokratische Spitzen. Ce sont des points d'agacement. Donc, entre les deux versions de cette élégie, il y a 1789. Et donc une perspective contemporaine postérieure au séjour en Italie. Là, en Italie, Amor der Fürst, le prince, amour, lui accorde l'asile protecteur et une femme aimée, römisch gesinnt, c'est-à-dire dont la tournure d'esprit est romaine, ouverture romaine, c'est-à-dire qui n'est pas française et ne craint pas, c'est dit explicitement, ne craint pas la fureur gauloise et reste indifférente aux nouvelles du jour. Sie erkundigt sich nie nach neuer Meere. La poésie amoureuse offre un refuge aux amants. Ainsi, immédiatement après le poème qui introduit le palindrome Amor Roma et le salut et ce salut adressé à une Rome que le jeu pressent animé par l'amour, ça c'est la première élégie, il procède maintenant à une mise à distance du discours politique qui s'impose partout ailleurs. De manière cryptée, cette prééminence de l'amour et du bonheur privé sur la sphère politique est réaffirmée et justifiée dans l'élégie, dans la 12e élégie. Cette 12e élégie, je vais la présenter rapidement, donc, s'adresse à la femme aimée. Entends-tu? Comme moi, les moissonneurs qui quittent Rome une fois leur travail accompli. Les Romains ont délégué le travail à des ouvriers donc, qui s'occupent des récoltes. Mais plus surprenant, Ils ont abandonné le culte cérès de Déméter. Il n'y a plus de fête collective en son honneur, en remerciement de l'abondance des récoltes. À la place, le poète des élégies propose une fête privée où le couple se substitue, le couple qu'il forme avec la femme aimée, se substitue au peuple réuni. Lass uns beide das Fest im Stillen freudig begehen, sind zwei Liebende doch sich ein versammeltes Volk. Il développe ensuite un discours très articulé qui combine plusieurs récits mythologiques dans une démonstration insistante qui reprend le tour initial. Hörest du Liebchen devient Hast du wohl je gehört von jener mystischen Feier, passant de la perception immédiate à l'enseignement de la tradition. Les fêtes mystiques dont il lui parle, ce sont les mystères d'Eleusis, fondés et perpétués par les Grecs jusque dans les murs de Rome, où ils ont été transférés par les Romains victorieux. Ce qu'il décrit, c'est une initiation avec ses épreuves, au terme de laquelle le nouveau disciple, le néophyte, l'apprenti, der Neuling, der Eingeführte, der Lehrling, se voit dévoiler un mystère. Mais ce mystère n'est autre qu'un récit mythique, un conte qu'il faut à son tour interpréter. C'est le récit de l'amour de la déesse Déméter qui s'est montrée complaisante à un héros. Goethe avait d'abord écrit plus crûment qu'il s'était complaisamment couché sur le dos. En l'occurrence, c'est le héros Iasios, roi de Crète, auquel Déméter accorda, je cite, le doux mystère de son corps immortel, ce qui avait pour conséquence que les récoltes sur l'île de Crète étaient particulièrement riches, tandis que partout ailleurs, une famine sévissait. Par amour, la déesse de la fertilité a manqué au devoir de son métier qui est de nourrir les hommes. Tennis versäumte, über der Liebe genuss zehres den schönen Beruf. Par un emboîtement assez extraordinaire, l'initiation débouche donc sur la révélation d'une énigme que le désormais initié s'empresse de proposer à la femme. Verstehst du nun, geliebte, den Wink? La construction tout entière, cette construction tout entière est l'œuvre de Goethe. On se serait attendu, dans le contexte orphique des mystères de Leusis, un autre récit mythologique, celui de la quête rageuse de Déméter après le rapt par Hadès de sa fille Perséphone, qui fit dépérir les cultures. Une catastrophe à laquelle mit fin un compromis, une division de l'année qui, dans la mythologie, fonde le cycle des saisons. Chez Goethe, l'opposition entre le deuil et la vie dans ce récit orphique, a fait place à l'opposition entre l'amour et le devoir envers la société, entre la jouissance privée et les responsabilités collectives. Verstehst du nun, geliebte, den Wink? Mais quel enseignement tirer de cet emboîtement et de cette construction mythologique? La leçon est double. Premièrement, l'amour physique relève d'un culte sacré. C'est un autre mystère d'Eleusis, auquel on peut s'adonner dans cette fête à deux qui se substitue aux fêtes collectives. Le couple des amants a pris la place des... le couple des amants a pris la place du peuple. C'est dit dans une formule dont le sens érotique est manifeste. « Jene Buschi gemürte beschattet » Jene buschige Myrte beschattet ein heiliges Plätzchen. Cette myrte touffue, la myrte est un arbre dédié à Vénus, cette myrte touffue ombrage un endroit sacré. Deuxième aspect de la leçon, dans le contexte décrit par le début de l'élégie, où la moisson est accomplie et l'approvisionnement de la ville garanti, le plaisir des amants, Zufriedenheit, donc notre plaisir assouvi, n'est pas en contradiction avec l'intérêt général, ne fait courir au monde aucun danger. Unsere Zufriedenheit bringt keine Gefährde der Welt. L'élégie 12 offre de cette manière une justification mythologique ou pseudo-mythologique au retrait de la sphère politique vers celle de l'amour, à l'asile royal que celui-ci, mais aussi la ville de Rome, Amor et Roma, accordent et dont il était question dès la deuxième pièce du cycle. Il y a d'ailleurs un jeu assez intéressant sur, enfin, qui tient à l'arrangement du cycle, même s'il est risqué de se prononcer à cause des hésitations et des tâtonnements et des, qui ont présidé à la composition. Mais si on part du principe d'une symétrie axiale, c'est-à-dire qu'il y a 1 et 20, 2, 19, donc il est à noter que la, donc ces deux élégies qui, ouvertement ou de manière plus cryptée, traitent du rapport politique, sont à la deuxième place, non, 2 et 12. De ces moitiés qu'on peut construire. Je passe à la deuxième, au deuxième exemple, l'élégie 19. Donc, à première vue, cette élégie évoque les réactions méprisantes et haineuses de la société de Weimar à ce qu'elle considérait comme une mésalliance. Mais elle contient également une discussion sur les apories de la poésie. Entre femme, la réputation, et amour, amour, c'est la guerre. Femme, c'est choisi pour futur époux un héros, le plus grand des héros, Hercule. Le contexte des élégies permet de voir derrière cet Hercule le poète même. La septième élégie, notamment, joue sur un quiproquo entre le poète qui aspire à l'Olympe et n'accède dans le contexte romain qu'à l'Olympe second qu'est le Capitole. Il bénéficie d'une erreur, il n'est pas le héros que l'on attendait, mais puisqu'il est là par chance, par une lubie de la fortune, autant le tolérer. Pendant que femme se voit en épouse, le dieu amour donne à Hercule la plus belle des femmes. Den Helden brachte mit weniger Kunst unter der schönsten Gewalt. Cette femme n'est pas nommée. Dans la mythologie, il s'agit d'Omphale, mais il est probable que l'absence de nom soit intentionnelle. Elle permet des attributions multiples, biographiques, mythologiques, mais aussi plus abstraites. Puis, amour travestit les amants. Ils changent leurs identités sexuelles. La femme est parée des attributs du héros. La peau de lion, la massue. Le héros se prête à la plaisanterie, il consent à s'adonner aux travaux féminins, à se couvrir les cheveux de fleurs et à empoigner une quenouille. Rocken. C'est un tableau vivant que les autres dieux sont appelés à contempler pour leur bonheur ou pour leur malheur. Femme, qui se voyait déjà en fiancée d'Hercule, est profondément attristée de voir celui qu'elle s'était choisi comme futur époux dans cette posture humiliante, mettant d'abord en doute la réalité de la chose. Masken, ihr Götter, sind das meinen Helden, ich kenne ihn zu gut, es haben Tragöden uns zum Besten. Sa douleur, quand elle le reconnaît, est grande, et elle s'enfuit dépitée. La guerre que se livre femme à la renommée et l'amour, tout occupé à défaire ses réputations, trouve son origine dans cette mascarade. Et Goethe, implicitement, rapporte encore ses propres déboires avec la société de Weimar à ce conflit. Und so geht es mir auch. Schon leid ich ein wenig. Mais il s'agit de... L'enjeu de cette élégie va beaucoup plus loin qu'un simple commentaire des difficultés de Goethe à faire admettre sa nouvelle union avec Christiane Vulpius par la société de Weimar. Car il y insère un autre récit mythologique présent dans l'Odyssée et repris dans les Amours d'Ovide, l'adultère de Vénus qui trompe Vulcain avec le dieu de la guerre, Mars. L'histoire est introduite, insérée, pour indiquer l'intensité du dépit de femme, ou de la colère de femme. Ce dépit est plus de 1000 fois supérieur à celui des Vulcains qui se découvrant cocus, ou plus précisément lorsqu'il réussit à prendre les amants dans un filet qu'il a lui-même conçu. Nicht den tausendsten Teil verdross es Vulkanen, sein Weibchen mit dem rüstigen Freund unter den Maschen zu sehen, als das verständige Netz im rechten Moment sie umfasste, rasch die Verschlungenen umschlang, fest die Genießenden hielt. Vulcain fut mille fois moins dépité de voir sa compagne prise au ray avec son robuste amant quand le filet astucieux se referma sur eux au bon moment, enlaçant les corps enlacés, fixant les amoureux en plein plaisir. Quelle peut bien être la fonction de cet ajout, de ce récit mythologique enchâssé dans un autre? L'histoire formule un paradoxe. Vulcain, le forgeron, l'artisan, parvient certes à piéger sa femme et son rival, mais il prolonge par là même leur union et fige leur étreinte pour le plus grand bonheur du couple qui est pris dans les raies de son invention, mais aussi pour le plus grand bonheur des dieux qui contemplent la scène, Mercure et Bacchus, qui le supplient de ne pas le détacher. Wie sich die Jünglinge freuten, Merkur und Bacchus, sie beide mussten gestehen, es sei über dem Busen zu ruhen, dieses herrlichen Weibes ein schöner Gedanke. Sie baten, löse Vulkan sie noch nicht, lass sie noch einmal besehen. Der Alte war so harnreih und hielt sie nur fest. Quelle joie pour les jeunes dieux, Mercure et Bacchus. Ils convinrent tous deux que reposer sur le sein de cette beauté radieuse, c'était une belle pensée. Ils implorèrent, ne les délivre pas encore, ô Vulcain, laisse-nous les regarder encore. L'énigme peut se résoudre si on se dit que la scène rend compte de l'identité double de Goethe. Il tient les deux rôles à la fois, celui de l'amant et du mari trompé. Par un dédoublement, il est aussi bien l'amant robuste, der rüstige Freund, qui éprouve les plaisirs érotiques, que le concepteur astucieux du filet subtil, das verständige Netz, que construit Vulcain. En figeant le plaisir amoureux, il le fait partager à des tiers, à un public qui conçoit qu'il s'agit là d'une belle pensée. Et par un tour réflexif, le filet figure le poème érotique, l'instrument qui permet d'appréhender l'instant fugace du plaisir, de le rendre pérenne, de le trahir, c'est-à-dire transmettre, en anticipant ainsi l'argument ouvertement poétologique, comme disent les Allemands, de l'élégie suivante, la 20e et dernière du cycle, qui assigne au poème, aux élégies, la tâche de découvrir aux habitants de Rome le, je cite, le beau secret d'un couple amoureux. Und ihr wachset und blüht, geliebte Lieder, und wieget euch im leisesten Hauch lauer und liebender Luft und entdeckt den Quiriten wie jene Rohre geschwätzig eines glücklichen Paars, schönes Geheimnis zuletzt. Et vous, croissez et fleurissez, chansons aimées, bercez-vous dans le souffle le plus subtil de cet air tiède et amoureux, et bavard comme furent les roseaux, révélés enfin aux Quirites, c'est-à-dire aux Romains, mais c'est tout le monde, le beau secret d'un couple amoureux.